Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous remercie donc pour votre participation à la conférence téléphonique d'Alten relative à l'activité de l'année 2025. La fin de l'année 2025 s'est avérée meilleure qu'anticipée, tant en France qu'à l'international, même si les situations diffèrent selon les secteurs d'activité et les géographies, bien entendu. À fin décembre 2025, le chiffre d'affaires s'établit à 4,1 milliards d'euros, en recul de 1,1% par rapport à l'an passé. Il était de 4,143 milliards d'euros. En France, l'activité a progressé de 4,3%. Pardon, au global pour le groupe, je suis désolé, l'activité a progressé de 4,3%. Hors de France, elle recule de 3,7%. À périmètre échange constant, l'activité du groupe Alten a décru de 4,5%. Elle a décru de 3,6% en France et de 4,9% hors de France. Comme vous le savez, notre activité a été très légèrement pénalisée par 1,3 jours ouvrés de moins que l'an passé, ce qui a eu un impact que nous avons estimé à 0,25% du chiffre d'affaires sur la croissance organique. Une décroissance organique à JO constant aurait donc été de 4,25%. Contrairement au trimestre précédent, le quatrième trimestre a marqué un net ralentissement de la décroissance de l'activité. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 1,23 milliard d'euros, en recul de 0,35% par rapport à 2024. Il était de 1,026 milliard d'euros. À données constantes, l'activité décroît de 2,25% au quatrième trimestre. Elle décroît de 2,4% en France et de 2,2% hors de France, soit un rythme de décroissance inférieur de moitié à celui des trimestres précédents, dont on espère qu'il est annonciateur enfin d'une stabilisation de l'activité avant un éventuel rebond en 2026. Notre taux d'activité est relativement stable, puisqu'il s'est établi à 91,2% sur le dernier trimestre, identique à celui de 2024. Il est donc de 91,1% sur l'année, identique à celui de l'année 2024, puisqu'il était de mémoire de 91,2%. Nos effectifs, dans un contexte de décroissance, ont continué à diminuer à périmètre constant. Ils ont moins diminué au dernier trimestre que les trimestres précédents. Néanmoins, vous allez voir que Alten, qui comptait à fin décembre 2025 57 400 collaborateurs, comptait également 51 000 ingénieurs. Nous étions 57 700 collaborateurs fin décembre 2024, hors WorldGrid, dont 50 900 ingénieurs. Et pour mémoire, 57 900 collaborateurs, dont 51 340 ingénieurs, fin juin 2025. Au total, sur les 51 000 ingénieurs que comptait le groupe Alten fin 2025, 11 800 sont en France et 39 200 hors de France. À périmètre constant, depuis le début de l'année 2025, les effectifs ingénieurs ont donc reculé de 896 personnes, dont 331 en France et 565 hors de France. En 2025, seuls les 996 ingénieurs de WorldGrid ont rejoint le groupe dès le 1er janvier. Au global donc, de façon assez schématique, l'entrée de WorldGrid a permis de compenser la décroissance organique du groupe sur l'année. L'amélioration de notre activité au dernier trimestre par rapport à ce que nous avions anticipé a permis de générer environ 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus, pour deux tiers en France et pour un tiers à l'international. L'analyse de l'activité par géographie, puis par verticale, est la suivante. En France, le recul organique est de 3,6%. S'il vous plaît, next slide. Mais de 2,4% au dernier trimestre. L'activité est pénalisée par un net recul de l'activité automobile, moins 21% year-on-year, l'activité auto qui représente 10% du chiffre d'affaires France, les télécoms, moins 20% avec 5% de l'activité France, et la banque qui est en recul de 17%, banque qui représente 5% de l'activité France. L'aéronautique, a contrario, a renoué avec la croissance, l'aéronautique qui représente un tiers de l'activité en France et qui a cru de 3,5% year-on-year. Les secteurs de la défense, 12% du chiffre d'affaires France, 12% de croissance organique, et du ferroviaire, 5% de croissance organique, sont restés dynamiques. Au dernier trimestre, en vision séquentielle et pas year-on-year, l'activité s'est stabilisée dans l'automobile, dans la banque finance, et la croissance s'est accélérée dans les secteurs aéro et défense, bien au-delà de ce qui avait été anticipé. En zone ibérique, l'activité a crû de façon satisfaisante de 5,5% sur l'année et de 6,6% au dernier trimestre, à l'exception du secteur automobile qui représente 5% du chiffre d'affaires. Tous les secteurs sont en croissance, croissance qui s'est avérée également plus vigoureuse au dernier trimestre qu'anticipé. En Italie, l'activité a crû de 2,4% et de 2,9% au T4. Après avoir ralenti au premier trimestre, l'activité croît à nouveau de 2,8% environ, à l'exception du secteur télécom, qui représente 7% du chiffre d'affaires italien. Tous les secteurs ont progressé, certains plus nettement au dernier trimestre, notamment les secteurs aéro et défense, mais également le secteur automobile, qui a rebondi. En Allemagne, le recul de l'activité year-on-year a été ramené à 13,8%. Vous verrez dans les annexes les rythmes de croissance que nous avons publiés trimestre après trimestre. Et vous verrez qu'au dernier trimestre, le rythme de décroissance de l'Allemagne a fortement ralenti, puisqu'il est passé de 20% à la fin de l'année 2024, 19% au début de l'année 2025, et il est de proche de 3% au Q4. Alors certes, l'activité automobile, qui représente presque 40% du chiffre d'affaires allemand est en recul de 27%, mais la décroissance séquentielle de l'activité a également ralenti dans l'auto. Après avoir décliné jusque fin du troisième trimestre, l'activité a rebondi au quatrième trimestre dans l'aéronautique, qui représente 20% du chiffre d'affaires, une activité qui est en croissance organique au dernier trimestre, tant year-on-year que séquentiellement. De même que les télécoms, qui représentent 9% du chiffre d'affaires. En Allemagne, l'activité se développe aussi assez rapidement dans le secteur de la défense, qui a cru fortement et qui représente dorénavant 7% du chiffre d'affaires allemand. Un dernier trimestre qui s'est donc avéré plus favorable qu'anticipé en Allemagne également, même si l'activité reste compliquée dans ce pays, qui n'en a pas fini avec les problématiques autour de l'automobile, bien évidemment. Au UK, l'activité a décru de 12%, et contrairement aux autres pays, le Q4 n'a pas marqué d'amélioration par rapport au reste de l'année. Le recul s'est même accentué dans l'automobile, qui est en recul de 23%, 15% du chiffre d'affaires UK. Le recul se poursuit également dans l'aéronautique civile. 20% du chiffre d'affaires, moins 6% de décroissance, de même que dans le secteur public, qui est en recul de 20%. A contrario, un secteur, évidemment, croît maintenant de façon significative, le secteur de la défense, puisqu'il a en croissance de plus de 11% et représente maintenant à peu près 10% du chiffre d'affaires UK. Au Benelux, situation qui est à peu près identique à celle du UK, un recul de l'activité qui s'est accentué ce dernier trimestre, portant la baisse cumulée de la zone à fin 2025 à moins 11,2%. La Belgique, qui représente 40% du Benelux, a vu son activité globale reculer de 9% en raison des secteurs automobiles et tertiaires. Aux Pays-Bas, qui représentent donc 60% de la zone, l'activité a reculé de 13% en raison des secteurs autres industries et énergie, au global qui représentent tous les deux à peu près 40% du chiffre d'affaires. A contrario, le secteur des semi-conducteurs, qui est le secteur d'activité le plus important du pays, des Pays-Bas, est stable. En Europe de l'Est, l'activité est restée stable. En Pologne, qui représente 75% du chiffre d'affaires, la croissance est de 3,5%. En Roumanie, qui représente le 25% du CA, l'activité a décru de 10% en raison des secteurs auto et banque-finance. En Scandinavie, l'activité globale a décru de près de 20%, mais le rythme de décroissance a ralenti séquentiellement. En Suède, qui représente 70% du chiffre d'affaires, le recul est de 25% en raison des secteurs auto et poids lourds, comme d'habitude. En Finlande, qui représente 25% de la zone, le recul est de 12%, mais l'activité a renoué avec la croissance au Q4 dans le secteur des machines-outils, secteur qui représente en Finlande pour Alten 80% du chiffre d'affaires. Si on change de rive de l'Atlantique et qu'on va maintenant en Amérique du Nord, l'activité a décru de 6,6%, un rythme de décroissance qui a ralenti également, l'activité se stabilisant progressivement de façon séquentielle. Aux US, 71% de la zone, les secteurs auto, life science et retail ont reculé, mais se stabilisent progressivement au Q4. Au Canada, 25% de la zone, l'activité a cru de 5%, grâce au secteur auto, aéro et banque finance. En zone Asie-Pacifique, l'activité est en léger recul, puisqu'elle est le recul est de moins 0,7%, mais l'activité est globalement stable sur le second semestre. La Chine est en croissance, c'est un tiers de la zone. Tous les secteurs sont en croissance à l'exception des télécoms. L'Inde, 27% de la zone, a décru de 3% en raison des secteurs auto et tertiaire, les autres secteurs étant en croissance. Le Japon, 23% de la zone, croît de 12% grâce au secteur automobile et au secteur tertiaire. Enfin, la Corée est en forte décroissance en raison du secteur auto, mais surtout en raison de la perte d'un client important dans le secteur auto. Next slide, s'il vous plaît. Voilà. Si maintenant on analyse l'activité, comme nous le faisons habituellement par secteur d'activité, vous voyez que l'automobile a globalement reculé de 16%, évidemment à périmètre échange constant. Elle a reculé chez les constructeurs de 27% et chez les équipementiers de, pardon, elle a reculé chez les constructeurs de 12,5% et chez les équipementiers, elle a reculé de 27%. Comme vous le savez, c'est la très forte décroissance de l'activité chez les équipementiers allemands, en recul de 60% environ, qui explique ce très très fort recul de l'activité chez les équipementiers automobiles. L'essentiel du recul chez les équipementiers est, je pense, maintenant achevé. Et les chiffres que nous avons entre Q3 et Q4 dans le secteur auto montrent une stabilisation progressive de l'activité. Le ferroviaire est stable, un secteur qui devrait logiquement progresser en 2026 si l'on en croit les perspectives des clients. L'aérospatial, qui représente 15,5% du chiffre d'affaires, a renoué avec la croissance organique year-on-year au dernier trimestre, ramenant donc la décroissance cumulée à fin décembre à 2%. Même le spatial, qui avait été très impacté au premier semestre, est à nouveau en croissance. Au mois d'octobre, nous avions anticipé, nous vous l'avions communiqué, un retour de la croissance organique en 2026. C'est finalement concrétisé dès ce dernier trimestre 2025. Les activités défense, sécurité et navale, qui représentent pour nous 8,8% du chiffre d'affaires, ont progressé de 12,4%. Un rythme de croissance qui a accéléré tout au long de l'année pour atteindre 16% au dernier trimestre. L'énergie, près de 12% du chiffre d'affaires, a cru de 5,3% grâce au nucléaire et au secteur des équipements pour l'énergie. Le secteur de l'oil and gas est stable. Les sciences de la vie ont décru de 3,7% year on year, mais uniquement de 1,4% au deuxième semestre. Les équipements médicaux sont en recul de 12%, alors que le secteur pharma est en recul de 2%. Une activité qui, en valeur absolue, tend à se stabiliser également de façon séquentielle. Le secteur des équipements industriels et de l'électronique et semi-conducteurs, ce secteur est globalement en recul de 9,1%. De façon à peu près similaire aux autres secteurs d'activité, on a vu une activité qui a commencé à se stabiliser dans le secteur de l'électronique et des semis et qui a continué à se détériorer dans le secteur des autres industries. Les télécoms sont en décroissance de 8,5%, une activité qui a baissé de 10% chez les équipementiers et de 7,5% chez les opérateurs. Un recul qui reste marqué year on year, mais une activité qui, en valeur absolue, tend également à se stabiliser entre Q4 et Q3. Enfin, le secteur de la finance est resté stable, un secteur qui a décru au premier semestre, mais une activité qui est revenue à l'équilibre year on year au Q3 et qui a recommencé à progresser au Q4. La situation s'est stabilisée ou améliorée dans toutes les géographies au dernier trimestre, mais c'est principalement en Europe du Sud et au Canada que le rebond de l'activité a été le plus marqué. Enfin, le secteur retail, services et secteur public, qui représente 16,5% du chiffre d'affaires, a décru de 6,7%. Une activité qui tend néanmoins à se stabiliser également progressivement. Concernant le M&A, Alten a acquis quatre sociétés cette année. Les trois premières sociétés que nous avons acquises entre juillet et octobre 25 ont donc fait l'objet d'une communication à fin octobre. Une dernière acquisition a été réalisée en fin d'année dans le secteur du life science, dont le portefeuille d'activité est très complémentaire de celui de nos activités en France et en Belgique. Une société dont le chiffre d'affaires estimé 2025 est de 20,5 millions d'euros et qui comprend 190 consultants. Voilà, donc en synthèse, pour l'année 2025 et nos perspectives pour 2026. Même si l'année 2025 a enregistré une décroissance de 4,5% à données constantes, le quatrième trimestre semble annoncer une stabilisation progressive de l'activité de façon séquentielle, ainsi qu'un rebond dans certains secteurs comme l'aérospatial ou la banque finance. Comme chaque fin de semestre, vous le savez, les fins de projet et les départs de la Saint-Sylvestre font que l'activité au début du trimestre qui suit est toujours en retrait par rapport à la période précédente. Il nous faudra donc attendre la fin du premier trimestre pour avoir une première vision de la dynamique d'activité pour 2026. Notre décroissance embarquée est proche de 2%. Elle ne tient pas compte d'un jour ouvré supplémentaire en 2026 par rapport à 2025. Bien évidemment, notre décroissance embarquée ne constitue pas une guidance d'activité pour l'année à venir, mais vous permet d'avoir une idée de la situation de départ à activité qui resterait constante. Ce dernier trimestre 2025, qui s'est avéré meilleur qu'anticipé, nous a permis de générer un surcroît de chiffre d'affaires qui aura donc une incidence positive sur la marge opérationnelle d'activité. Nous avions annoncé lors de la dernière communication une marge opérationnelle d'activité de l'ordre de 8,81 du CA pour 2025. Elle sera donc supérieure et nous aurons l'occasion d'en parler lors de la publication des résultats, qui aura lieu le 25 février prochain. Voilà, je vais laisser la parole aux participants. Si vous voulez bien, s'il vous plaît, ouvrir la conférence pour permettre aux personnes qui y participent de poser les questions.
Très bien, nous avons une question de Nicolas David. Je vous donne l'autorisation de parler.
Next time. Oui.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour Nicolas.
Oui, j'ai deux questions, essentiellement pour parler sur le T4. Donc, on voit bien que ça a été un peu mieux que prévu. Est-ce qu'il faut considérer qu'il y a eu des liquidations de queue de budget de la part des clients qui avaient peut-être pris un peu de retard sur le budget qu'ils avaient, ils ont un petit peu fait du budget flush en fin de trimestre, ou c'est plus fondamental que ça et on va dire soutenable que ça, cette stabilisation. Et s'il y a eu des queues de budget, est-ce que tu es capable d'estimer à peu près les choses, un peu, le caractère un peu anormal de la performance du T4? Et ma deuxième question, c'est effectivement, on a une décroissance embarquée d'un point de vue purement mathématique quand on regarde les effectifs de moins 2%, mais en réalité, le T1 l'année dernière, en 2025, avait été en décroissance et en pente de décroissance durant le trimestre. Donc, quelque part, quand je
Ah,
les sur le trimestre,
trimestre.
j'ai le sentiment que finalement,
Finalement,
être stable
on
sur notre
sur
croissance,
croissance.
regarde en fait
En
une croissance plus latente
fait,
en tant que
une
telle. On regarde juste les quarter en quarter et les tonalités traditionnelles. Je ne
traditionnelle.
choquerais pas de faire
Mais
0 à 1% de croissance.
voir une
Complètement.
Alors, Nicolas, la deuxième question a été extrêmement hachée. Je ne sais pas si c'est une qualité réseau chez Alten ou si c'est. Mais.
J'ai eu de l'écho. J'ai eu de l'écho aussi, c'était bizarre.
Aussi,
Encore d'écho.
ouais. Donc, si j'ai bien compris. Donc, pour la première question concernant le T4, non, il n'y a pas eu de liquidation de queue de budget, enfin, ni dans le secteur public ni ailleurs. Qui aurait généré un surcroît d'activité pour cette raison-là. Y a eu effectivement une reprise de projets et des budgets qui ont été libérés à la fin de l'année par Airbus, notamment dans le domaine de l'aéronautique. Et donc, il y a un certain nombre de projets qui avaient été décalés dans le temps, puis décalés, qui ont démarré. En France, d'ailleurs, en Allemagne également. Ça participe aussi d'ailleurs de l'amélioration de la situation en Allemagne, reprise une accélération aussi des budgets chez Airbus Defence and Space en Espagne, mais on est là face à, je dirais je pense, une réaugmentation de l'activité chez Airbus, comme ce qui avait d'ailleurs été annoncé. Et ça, ce sont des projets qui s'étalent sur plusieurs mois et qui sont donc pérennes dans leur réalisation au cours de l'année 2026. Pour la deuxième question, effectivement, mathématiquement, bon, on a une décroissance embarquée qui est ce qu'elle est. Est-ce que, si j'ai bien compris la question, c'est est-ce qu'on pourrait envisager de faire zéro de croissance organique en year on year en 2026? Ben, il nous faudrait pour ça. Compenser en fait la décroissance de 2025, la décroissance embarquée de 2025. Bon, c'est pas infaisable s'il y a une dynamique d'activité qui est plus favorable que celle qu'on a connue en 2025. Il y a déjà dans certains secteurs bon, un infléchissement de l'activité avec une inversion de la courbe. C'est pas vrai dans tous les secteurs encore. Donc, si on imagine que ça se finira par se stabiliser. Qu'on compensera les pertes de début de trimestre, là, mais qui, elles, sont, je dirais, inhérentes à notre activité. Ça arrive chaque année de croissance comme année de décroissance. On peut effectivement imaginer de faire zéro sur l'année, mais pour l'instant, c'est vraiment très prématuré, puisque on est dans un modèle d'activité où, en règle générale, avant fin mars, on a du mal à avoir une vision assez claire sur ce que sera la dynamique de l'activité de l'année. Nous, on a deux périodes qui sont clés, c'est fin février et mars, voilà, et puis c'est fin septembre-octobre.
Ok, moi j'avais même l'impression que vous pourriez potentiellement être en croissance enfin stable dès le Q1 en vrai.
On verra, mais c'est pas mon hypothèse en tout cas.
Ok.
Si c'est la question, c'est pas mon hypothèse. Maintenant, peut-être que non, mais ça serait compliqué, surtout compte tenu de la décroissance embarquée, surtout qu'on commence l'année avec un nombre de projets inférieur à celui de la fin de l'année 2025. Hein. Il faut quand même bien l'avoir en tête. Donc, à moins qu'il y ait un rebond extraordinaire, et là on est fin janvier, on suit évidemment notre activité à la semaine, on n'a pas rattrapé à fin janvier la décroissance qui est liée aux arrêts de projet et au départ de fin d'année. Hein. Donc je ne vois pas comment ce serait possible.
Ok, non, c'est clair.
Okay.
Merci.
Merci.
Merci. Nous avons
Merci.
maintenant une question de Laurent Dor. Laurent Dor, vous pouvez poser votre question.
Bonsoir Bruno, tu m'entends? Il n'y a pas d'écho.
Très bien, Laurent.
Parfait, merci
Parfait.
beaucoup. Alors j'ai trois
Merci.
points. C'est vrai, moi j'ai un écho aussi, en fait, c'était un peu pour tout le monde, j'ai l'impression, et j'espère que ça va passer quand même. La première question, c'est un peu tôt dans l'année, mais au niveau des recrutements, quels sont un peu les guidance qui ont été donnés aux équipes? Est-ce que vous êtes en wait and see? Il y avait Simon il y a quelques mois qui parlait de recroiser pour en S1, éventuellement au fin S1, les effectifs en organique qu'on avait il y a un an, pour voir un petit peu si c'est toujours quelque chose qui est envisageable. Deuxième point, c'est l'Allemagne qui est presque stabilisée T4. Est-ce que sur 2026, les craintes qu'il y avait par rapport à un basculement offshore massif de l'auto sont toujours là? Est-ce qu'une redégradation de l'Allemagne est possible? Et enfin, comme d'habitude, si tu pourrais nous donner un petit commentaire sur ton pipe de M&A. Merci.
Merci. OK. Alors, pour ce qui est du recrutement, recrute uniquement si c'est nécessaire et si nous n'avons pas la compétence pour réaliser des projets. Il n'y a pas. Ça va mieux l'écho là?
Quand tu parles, ça va, c'est quand je parlais moi.
Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, on n'a pas donné d'objectif de recrutement. On n'a pas recommencé à recruter sans projet, comme dans les périodes fastes de croissance, parce que on a un intercontrat parce que l'activité n'a pas redémarré de façon suffisante pour ça. Donc, c'est vraiment le recrutement, on est toujours extrêmement prudent, parce que l'important, c'est d'avoir un taux d'activité qui reste dans les standards du groupe. Ensuite, si l'activité redémarre selon le rythme, évidemment, on recrutera pour accompagner, mais pour l'instant, je ne fais pas de pronostic sur le moment auquel la courbe va recroiser celle de l'an passé. L'Allemagne, alors en Allemagne, globalement, donc, l'activité est repartie à la hausse dans les secteurs de l'aéronautique, du spatial, les télécoms, on était en croissance au Q4 aussi. La défense commence à prendre un peu plus de place dans le camembert de l'activité allemand. Bon, pour autant, l'auto représente toujours 40% du CA. Et dans le secteur automobile, la situation n'a pas fondamentalement changé. C'est-à-dire que les appels d'offres qu'on reçoit sont toujours extrêmement exigeants sur le plan des tarifs. Requiert de toute façon et systématiquement un recours à de l'offshore pour pouvoir essayer à terme d'équilibrer les projets sur des gros projets. Les Allemands sont en train d'accélérer la délocalisation de l'ingénierie au travers de leurs sous-traitants de façon assez massive et beaucoup plus rapide que ne l'avaient fait les Français il y a une dizaine d'années, avec assez peu d'accompagnement. Donc, si on regarde le PNL allemand, globalement, le secteur auto, je pense, continuera à décroître, ça c'est sûr. Dans quelle proportion, je ne sais pas, mais en year on year, je ne vois pas le secteur auto revenir à l'équilibre fin en 2026. Séquentiellement, il pourra se stabiliser, je pense, au cours de l'année. En revanche, le PNL de l'auto en Allemagne restera négatif en contribution, puisque aujourd'hui, quand on gagne des projets, finalement, le fait d'avoir une part d'offshore nous oblige à gérer des processus de ramp-up sur ces projets-là, qui font que bah, structurellement, le projet est déficitaire au démarrage, c'est-à-dire que ça peut durer plusieurs mois, pour finir, par le moment où les transferts de compétences sont faits, par rapporter et devenir bénéficiaire au bout d'un certain temps. Voilà. Donc, il n'y a pas de changement de paradigme, je dirais, si ce n'est que globalement, si du fait de l'effet mix allemand, on a une contribution de l'auto qui est plus faible, une décroissance qui va de toute façon ralentir, puisque, comme je l'expliquais, chez les équipementiers, on ne peut plus perdre grand-chose. Et aujourd'hui, les constructeurs Et ça, c'est valable d'ailleurs pour les Allemands, mais c'est valable aussi pour l'ensemble des constructeurs européens. Dans la mesure où la Commission a précisé les nouvelles règles et que, d'une certaine façon, l'horizon s'est un petit peu éclairci pour le passage au tout électrique en 2035, je pense que, ça je vous l'avais déjà dit, il y a un certain nombre de constructeurs qui attendaient, je pense, ces précisions pour arrêter et définir une stratégie. Alors, les stratégies, chacun va définir la sienne, mais ça a contribué à mettre on hold un certain nombre de projets, et donc il y a un certain nombre de budgets qui probablement vont être lâchés. Donc, je pense que l'activité finira par se stabiliser en chiffre d'affaires, même si globalement l'offshore contribue en termes de mix à générer moins de chiffre d'affaires pour des projets qui, en nombre de people, sont à peu près équivalents. Je ne vois pas gagner de l'argent dans l'auto en Allemagne en 2026. En revanche, du fait de l'évolution du mix, de la remontée de l'aérospatiale et puis des autres secteurs d'activité qui vont rebondir tôt ou tard et qui, eux, sont positivement contributeurs, on devra avoir une amélioration en 2026 de la situation en Allemagne. En tout cas, c'est notre hypothèse. Pour ce qui est du pipe de M&A, alors on a aujourd'hui une bonne dizaine de sociétés en phase de due deal. C'est d'ailleurs assez lourd à gérer de façon simultanée. Pas de grosses sociétés. Les plus grosses font plusieurs centaines de personnes. Il y en a une qui est pas loin de 1000 consultants, qui fait pas loin de 1000 consultants en Europe, tous pays confondus, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud aussi. On a des cibles au Brésil pour accompagner des constructeurs européens, en Asie, Inde, Chine notamment. Voilà. Donc, c'est un pipe qui est assez dynamique. Pas de cible majeure en due deal, mais une activité qui s'était tarie en début d'année, fin 24 et début d'année 25, et qui a quand même pas mal rebondi. D'ailleurs, puisqu'on parle du M&A, les quatre sociétés que l'on a acquises en 2025, qui sont donc listées dans le communiqué, seront normalement toutes les quatre consolidées à partir du 1er janvier 2026.
D'accord, tu n'avais rien consolidé jusqu'à présent.
Non, à part Worldgrid au 1er janvier 25, rien du tout.
Ok. Si je peux ajouter un tout dernier point, après je vais laisser la parole aux autres. Si tu prends l'hypothèse que ton business se stabilise en séquentiel, je sais que ce n'est pas les résultats aujourd'hui, mais pour avoir une vague idée de comment tu comptes gérer ta base de coûts, et est-ce que sur l'hypothèse d'une activité qui reste vraiment stable séquentiellement, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Est-ce que la marge a un potentiel de rebond ou est-ce qu'on a besoin de reprise séquentielle du chiffre d'affaires?
On va faire une marge en 25 qui sera un peu meilleure que celle qu'on a annoncée, puisque là, pour le coup, on est à structure de coûts équivalente pour délivrer ce chiffre d'affaires en plus. Donc, nécessairement, ça a un effet relatif sur la marge. Pour 26, c'est trop tôt pour répondre à la question, mais si l'activité se stabilise, on pourra fonctionner à structure équivalente. Donc, pourra avoir une légère appréciation de la marge. Si l'activité repart, même si on devra l'accompagner et accompagner, donc réaccompagner une augmentation de la structure, on devra avoir un effet forcément bénéfique sur la marge par rapport à 2025.
Ok, merci beaucoup Bruno.
Non. Je t'en prie, Laurent.
Merci. Nous avons maintenant une question de Derek Marcon. Derek, vous pouvez normalement prendre la parole.
Pardon. J'ai coupé le téléphone. Oui, bonsoir messieurs, j'espère que vous m'entendez. J'avais quatre questions. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien. Vous
Ok,
pouvez
super.
poser vos questions. Allez-y.
Okay. Donc, salut Bruno. La première, c'est est-ce que tu peux nous donner quand même un ordre d'idée sur l'importance, en fait, quantifier le passage 31 décembre au 1er janvier en nombre d'effectifs que tu as perdus ou nombre de projets que tu as perdus et voir à quel rythme tu penses pouvoir remonter ce chiffre? Est-ce que c'est comparable aux années précédentes ou est-ce que finalement tu pars avec une situation au 1er janvier 2026 un peu meilleure que prévu? Ma deuxième question, c'est sur les frameworks que tu as gagnés en Allemagne dans l'auto ou ailleurs, les grands référencements. Donc, tu évoquais le fait qu'il y a plus d'offshore et que ça pèse un peu sur les marges, mais est-ce qu'on peut avoir une idée des volumes qui sont en jeu et du ramp-up que ça peut produire en fait sur le chiffre d'affaires? Parce que j'imagine que quand tu gagnes ces grands référencements, tu n'as pas 100% de l'opportunité qui se matérialise tout de suite. Mais si on regarde un peu plus loin, jusqu'où ça peut t'emmener si on prend des comptes comme Volkswagen, comme BMW, est-ce que c'est voilà, pour donner un ordre de grandeur, est-ce que c'est un multiplicateur du chiffre d'affaires que tu fais actuellement ou est-ce que c'est 10-20% en plus si tout se passait comme tu le souhaitais? Et ma troisième question, en fait, j'en ai que trois, donc finalement, Laurent va être content. La troisième, c'est sur l'EBIT margin, donc si c'est on raisonne à OPEX constant par rapport à ce que tu avais imaginé. Tu mentionnais 30 millions d'euros de delta par rapport à ce que tu avais pris dans ta guidance. Donc j'imagine que c'est plutôt le haut de guidance. Donc ça fait à peu près 50-60 points de base de plus sur la marge. C'est comme ça qu'il faut raisonner pour 2025, je veux dire. Merci.
Je vais commencer par la, même si ce n'est pas un call qui porte sur l'armure, je vais commencer par la dernière question. Quand on fait
C'est
du
la plus
chiffre
facile,
d'affaires,
c'est pour ça.
quand on fait du chiffre d'affaires en plus, enfin, tout ne descend pas, la top line ne descend pas en bas. Il y a des coûts qui s'intercalent entre les deux, notamment accessoirement des salaires. Donc, ça ne peut pas faire mathématiquement 50, 60 points de plus sur les bits.
Enfin, les
C'est
salaires,
forcément.
les people, tu les as déjà, sauf s'il y a effectivement, tu le fais
Non,
pas
bien
avec
sûr.
les effectifs en place, ouais. Après, il y a les bonus, c'est vrai.
Mais non, ouais, bien sûr que non. En fait, il y a quand même un cost of sales qui est pas neutre. On ne travaille pas avec des marges brutes du luxe où on n'a pas 85% de marge brute. Sinon, non, ça se saurait. Donc, non, non, faut pas attendre une marge qui augmente dans ces proportions-là. Elle sera meilleure, mais elle sera modérément meilleure. Vous voyez?
Bien compris.
Voilà. Connaissez à peu près nos taux de marge brute. Voilà, ça nécessite aussi, à partir du moment où les performances sont meilleures, ben, il y a plus de commissions commerciales, etc., etc. Enfin, bon, enfin. Il y a des frottements entre le chiffre d'affaires et les bits, hein, quand même, Derek, dans notre compte de
Ah, bien
résultat.
compris, bien compris.
Voilà. Bon. Alors, ensuite, concernant les référencements, ça, c'est la question la plus compliquée parce que c'est vrai qu'on a gagné d'ailleurs des nouveaux référencements. Je pense on le voit au travers des appels d'offres, une concentration, notamment en Allemagne. Qui doit s'opérer sur certains acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs allemands qui n'ont pas de base offshore. Et donc, effectivement, on reçoit et on gagne des appels d'offres, sauf que, comme je l'avais déjà expliqué, en réalité, c'est des appels d'offres qui sont lancés sur des volumes d'activités. Ces volumes d'activités, ils se concrétisent, ils ne se concrétisent pas. Ils ne sont pas immédiatement backés par des statements of work ou des purchase orders qui portent sur des projets précisément. Et ensuite, bah, les directions techniques émettent des appels d'offres à l'intérieur de ces grands référencements sur des volumes d'activités qui peuvent porter sur des dizaines de millions d'euros avec des objectifs de productivité. Ensuite, c'est projet par projet. Donc pour l'instant, on ne voit pas d'augmentation significative, même s'il y a des référencements et des appels d'offres, on va dire, cadres qui sont lancés. On ne voit pas d'augmentation significative, même d'augmentation d'ailleurs du tout, du chiffre d'affaires avec les constructeurs auto-allemands se concrétiser de telle façon qu'on puisse imaginer une augmentation du CA avec les OEM de l'ordre de même 10 ou 20% l'an prochain, enfin cette année. Peut-être que ça surviendra, mais aujourd'hui, on n'a pas d'éléments concrets qui permettent de le dire. Ce qui est sûr, c'est que on est systématiquement consulté et que bon, voilà, on a gagné un certain nombre de projets, certains qui où les coups de ramp-up ben, pèsent sur les comptes, hein, il faut être clair, de l'Allemagne, d'autres où on s'en sort mieux plus rapidement, mais c'est quand même un changement très significatif. De la façon dont on opère le business avec l'auto en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a un an et demi maintenant, on recevait des appels d'offres avec des targets de prix horaire moyen de 55 à 60 euros par heure. Il n'est pas rare de recevoir des appels d'offres avec des targets de prix moyen de 30 à 35 euros par heure. Donc, ce qui, évidemment, le tout quand même avec une exigence de proximité pour les interfaces techniques avec les clients, qui fait qu'on ne peut pas délocaliser la totalité de ce qui est demandé. Déjà, encore faudrait-il qu'il y ait les compétences. Ce qui fait qu'on est face à des concurrents qui soit prennent des projets à perte, c'est qu'ils sont 100% allemands aujourd'hui pour rester référencés. Après, ça tiendra ce que ça tiendra. Ou d'autres concurrents qui font comme nous, hein, je ne vais pas donner de nom, mais qui sont aussi français et qui acceptent d'assumer des coûts de ramp-up qui, dans un premier temps, mettent ces projets en phase déficitaire. Voilà. Et alors ensuite, un ordre d'idée sur le début de l'année, ben, comme chaque année, hein, on perd à peu près entre 1300 et 1500 ingénieurs et projets. C'était vrai l'an dernier, c'était vrai l'année d'avant, etc. C'est en gros ce qui, c'est un peu moins important en fin au mois de juin, mais on a un phénomène à peu près identique. Et après, ben, il y a une dynamique de récupération. Alors l'année dernière, on n'avait quasiment jamais récupéré. Enfin, on n'a jamais récupéré. Là, on est en phase de récupération progressive. C'est pour ça que c'est exactement pour ça que j'indiquais que il faudra attendre la fin du premier trimestre pour voir combien de temps il nous faudra pour récupérer. Parce qu'ensuite, c'est à partir de là qu'on commence à régénérer de la croissance. Mais dans l'intervalle, c'est aussi pour ça que j'expliquais à Nicolas que je ne croyais pas à une croissance organique positive year-on-year sur le Q1, parce qu'on a une cuvette toujours au mois de janvier-février.
Mais c'est
Mais
donc ce
contrairement à l'an passé, si on doit faire une comparaison entre les 2 années, ce que j'ai fait, la phase de récupération est plus rapide cette année qu'elle ne l'était l'an passé.
voilà, c'est ça que je voulais te demander. Et juste sur les donc sur le bon
Sur
référencement ou les contrats cadres,
le
est-ce que tu peux quantifier quand
Oui.
même ce que ça représente comme enjeu en fait? Est-ce qu'on parle de 100 millions d'euros par an, 50 millions d'euros par an? Parce que si tu as un ordre quand même de grandeur sur ce que le
Non, ça
constructeur pourrait
franchement.
outsourcer, après tu peux faire des hypothèses de gain de part de
Non.
marché, de machin.
Non, franchement, non. Parce qu'on n'a aucune indication, on va dire, opérationnelle précise qui pourrait autoriser à faire ce genre de projection aujourd'hui.
C'est des trucs de sell side, ça. Ok, merci beaucoup, Bruno. Bonne soirée.
Éric, bonne soirée.
Alors, nous avons maintenant une question de Aditya Buddha Varapu.
Hi Bruno, can you hear me?
Yes.
Bonjour
Great.
Bruno, est-ce que vous m'entendez?
My question
Merci
is
d'avoir pris ma
about
question.
a point I wanted to clarify.
Je veux juste
For
clarifier deux ou trois éléments.
2026, can you just clarify what
2026,
you
est-ce que vous
were
pourriez
saying in terms of
clarifier
GP,
ce que
particularly of growth
vous
through the
êtes en train de
year?
dire sur la
Are you
projection de la
saying that
croissance pendant l'année?
Q1,
Est-ce que vous
Q2,
pensez que
Q2
T1 et
2026, and you
T2
might only see
seront
revenue
négatifs et on sera à
at the end of
retour à la
Q2,
croissance positive à la fin de T2?
and maybe flat for the full year?
Et peut-être que
Just
ça va
also
améliorer
based
tout au
on
long de
the
l'année,
elevated
basé
projects you have for
sur
this
les
year.
projets que
That's
vous
the
avez cette
first
année.
on the
Ça,
growth
c'est ma
side.
première question. C'est
Second
vraiment le
one is, could you
trajectoire
just
de
clarify on the
croissance.
margins for 2026, how
Alors,
should
pour
we
les
think about
marges
that?
de
Do you think growth
2026,
is stable or maybe growth is slightly
est-ce que
positive?
ceci
Or
dépend
maybe what the
sur une
margin
croissance
outlook for the year is
stable?
overall?
Est-ce que vous avez des projections pour les marges en règle générale? Tout d'abord, en ce qui concerne la croissance de 2026, comme je vous ai expliqué, nous n'avons pas de consignes à offrir à ce stade-là pour deux raisons. Tout d'abord, nous savons qu'il y a eu un déclin. Il n'y a plus de croissance embarquée à cause de 2024 et 2025. Donc, on sera à moins 2%, plus ou moins. Par-dessus de cela, à chaque fin de trimestre, nous perdons des projets parce que les projets sont en mauvais état et il y a des départs de la société. C'est comme ça que ça marche. À la fin de 2025, nous avons perdu 1 400 personnes à l'interne, à l'externe. Et nous devrions pallier cet effet par le recrutement des gens. Mais nous ne pouvons pas recruter des gens si on n'a pas de projet. Donc, bien sûr, des clients ont des projets qui finissent fin décembre. Ils vont relancer de nouveaux projets l'année prochaine. Dans leur portefeuille global, ils vont relancer des projets. Normalement, au début de l'année, au mois de janvier, février, mars. Donc, pour nous, c'est très important d'attendre pour savoir quand nous serons dans la même situation que nous avons vue à la fin du semestre dernier. Nous n'avons jamais réussi à le faire en 2025. Parce que le déclin économique global était partout, justement, c'était global. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à ce stade-là, nous ne pouvons pas savoir clairement si nous allons atteindre ce palier et ensuite gagner. Je pense que c'est peu probable que nous postions une croissance organique, parce que cela voudrait dire que nous aurions pallié le déclin, mais vu le déclin vécu par la société à la fin du T1, c'est quasiment impossible que nous puissions le faire. Quand il y a une croissance positive à la fin de T1, comme nous avons constaté avant, c'était parce que nous avions déjà généré suffisamment de croissance embarquée pour pallier les départs du personnel à la fin de l'année. Nous croyons dans une croissance positive. Et nous avions énormément de clients qui relançaient des projets, comme j'ai dit tout à l'heure, au mois de février et mars. Malheureusement, ce ne sera pas la même situation en 2026, même s'il faut dire que la situation sera meilleure que ce que nous avons vu en 2025. À vrai dire, je ne peux pas vous dire si ni quand nous allons pouvoir poster une croissance positive organique en 2026. Nous avons constaté que l'activité se stabilise de façon globale, séquentiellement, par rapport si nous faisons la comparaison entre T3 et T4, donc nous avons des secteurs qui avancent, qui grandissent, la finance, la défense, l'aérospatiale, pour la plupart, et l'activité nucléaire. Donc, le futur est, je dirais, mieux qu'il y a un an, mais nous ne sommes pas toujours pas à une croissance positive. En ce qui concerne les marges, nous allons revoir les marges au mois de février, donc il est trop tôt maintenant pour parler des marges de 2026. Les marges, tout ce que nous pouvons dire pour les marges est lié à la croissance. où nous devons traiter des coûts aussi. Donc, il faut attendre pour pouvoir mieux comprendre la situation, comprendre le client, la situation du client, avant d'offrir des consignes. C'est sûr, par contre, que les marges pour 2025 seront en dessous de l'estimation, parce que nous avions parlé de moins 5% de croissance organique, et à la fin, c'était moins 4,5. Donc, les coûts sont pratiquement identiques. Nous allons améliorer nos marges, pardon, par rapport aux consignes données au mois d'octobre, et vous allez voir au mois d'avril que les attentes font que nous attendions que les marges puissent aller beaucoup plus loin en 2026, mais encore une fois, il faut une meilleure visibilité de la suite.
All right, thank you, Bruno.
Merci beaucoup.
Merci. Thank you. Nous n'avons plus de main levée pour des questions. Est-ce que d'autres participants souhaitent intervenir? Nous avons une question de Derek Marcon à nouveau.
Oui, bon, Bruno, juste pour être bien sûr, parce que je pense que tu as répondu déjà à la question de Laurent, mais les dates de consolidation pour les quatre, c'est bien le 1er janvier 2026, parce qu'il me semblait que celle qui faisait du CRO aux US et en Inde, c'était au 1er octobre.
Non, non, c'est bien 1er janvier 26, et vous avez raison de le souligner, parce que il était prévu... qu'on la consolide au 1er octobre 26, 25, pardon, mais l'état de désorganisation de l'entreprise sur le plan de la gestion, de la comptabilité est tel que nos équipes indiennes ont été dans l'incapacité de les intégrer dans de bonnes conditions au 1er octobre. Ça reste assez marginal, parce que c'est une société qui fait 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça ne change pas grand-chose, un trimestre de plus ou de moins. Mais vous faites bien de reposer la question, parce qu'on a dû décaler la date de première conso au 1er janvier 26.
Top, merci.
Merci. Une dernière intervention? Eh bien, je crois que c'était la dernière question.
Bon, mais écoutez, si vous n'avez plus de questions... Je vous remercie tous donc pour avoir participé à notre conférence sur notre activité 25. Donc, les résultats, ce sera donc le 25 février, donc dans un peu plus de 3 semaines. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au cas où vous avez des questions complémentaires, ben, vous savez comment me joindre. Et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.